Deutsche Welle, Magazine Environnement.
La Grande Muraille Verte va couvrir la bande sahélienne beaucoup plus, alors que le AFR 100 peut couvrir l'ensemble du continent.
C'est un programme qui a pour objectif de restaurer en Afrique 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, sans oublier la promotion de l'agriculture intelligente et la gestion des pâturages. Il y a un peu plus de 2 semaines, les acteurs de ce programme se sont réunis ici à Bonn. Autre sujet au menu de ce numéro, il y a 10 ans, le cargo pour Boko Hala accostait au port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, avec sa cargaison de plusieurs centaines de tonnes de déchets toxiques. Une cargaison déchargée dans la banlieue abidjanaise. 10 ans après, les traces de ces déchets demeurent.
Ça fait qu'aujourd'hui, bon, ça nous a rendu malades. Il y en a même qui ont eu les avortements précoces, il y en a qui ont fait les fausses couches. Annoncé qu'ils ont eu les enfants de ma formation et ça continue. Jusqu'au bout, ça continue.
Mesdames et messieurs, bonjour. Kosiviti Asso au micro. Le programme AFR 100, soutenu financièrement par la coopération allemande et basé sur la restauration des terres dégradées, est censé redonner vie à certaines régions du continent africain. Il inclut aussi la restauration des paysages forestiers, selon son chef de programme, Mamadou Diakité.
C'est un programme qui a été lancé avec l'aval de l'Union africaine et à travers le NEPAD qui accueille le secrétariat de cette nouvelle initiative. L'objectif, c'est de travailler avec les pays et puis les partenaires internationaux, les ONG, la communauté civile, pour restaurer 100 millions d'hectares de terres et les retourner à la production économique, à la production agricole et pour le bénéfice des populations, ce qui va contribuer à la sécurité alimentaire et à la restauration des terres et des cours d'eau en Afrique.
Et quelle est la particularité entre ce programme et la Grande Muraille Verte qui existe déjà? C'est d'ailleurs l'une des critiques formulées à l'encontre de votre programme en disant qu'il y a déjà suffisamment d'initiatives sur le terrain.
On voit ces initiatives comme complémentaires. Par exemple, la Grande Muraille Verte va couvrir la bande sahélienne beaucoup plus, alors que le AFR 100 peut couvrir l'ensemble du continent. Donc déjà, il y a cette complémentarité au plan géographique et on sait que le plus qu'il y a une multiplicité de ces initiatives, du moment qu'il y a un minimum de coordination, les effets bénéfiques sont doublés, triplés par rapport à un autre projet ou à un autre programme. Par exemple, si la Grande Muraille Verte couvre une partie du Sénégal, le AFR 100 peut couvrir une autre partie, comme c'est le cas par exemple au Mozambique où on a été sollicité parce que 2 provinces sont déjà couvertes par l'aide d'autres partenaires financiers. AFR 100 peut couvrir d'autres provinces de Mozambique pour étudier et évaluer les parties des zones à restaurer.
Les zones arides où sévissent la pauvreté, les conflits sociaux et les catastrophes naturelles sont au cœur de ce programme. Un programme salutaire mais qui nécessite une participation plus renforcée des partenaires au développement. Paul Hall est de l'organisation Forum International.
Ce programme sera de faire le lobby pour avoir une expansion, une accélération dans le financement de l'arboisement en Afrique, mais aussi pour stimuler l'éducation sur la plantation, sur l'homme qui pourra avoir la connaissance, le transfer of knowledge pour planter les arbres. Et aussi, c'est un programme qui fait la sensibilisation sur la gestion durable, sur le reboisement durable de landscape.
L'autre facteur à ne pas négliger dans l'exécution de ce programme est la participation des communautés, selon Mamadi Diop, chef du service ressources naturelles au NEPAD.
Nous avons connu des périodes où les gens coupé le bois pour faire la cuisine, pour faire des meubles et beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'en coupant le bois, on rend la terre fragile. Et quand on rend la terre fragile, on ne retient pas suffisamment de sédiments au niveau du sol pour pouvoir avoir une agriculture intensive pour des questions de sécurité alimentaire. Donc maintenant, pour contrecarrer ce phénomène, il y a eu des engagements qui ont été pris au niveau international pour essayer de reboiser.
De nombreux projets et programmes similaires existent déjà, mais peinent à se concrétiser, et d'autres, comme la Grande Muraille Verte, sont en phase d'exécution. Mais pour Mamadou Diakité, qui coordonne AFR 100, ils sont complémentaires.
Je vois sur le terrain le reverdissement de beaucoup de millions d'hectares sur le continent africain. Et à ce titre, on peut lier cette initiative à d'autres en Afrique déjà, qui sont complémentaires et qui vont multiplier, qui vont avoir un effet multiplicateur de regagner des hectares et des hectares de terre, les rendre à l'agriculture, telles que l'initiative de la Grande Muraille Verte qui a pour objectif de relier depuis le Sénégal jusqu'à Djibouti une bande de terre d'au moins 15 km de large, pour les retourner non seulement pour planter des arbres, mais aussi pour avoir de la diversité, recréer la biodiversité, les cultures qui ont été perdues à cause du manque d'eau, avoir le retour de ces cultures pour les populations et pour les écosystèmes.
Tout comme à Paris, lors de la prochaine conférence sur le climat au Maroc, la COP22, l'aide à la restauration et la gestion durable des terres font partie des sujets des négociations prioritaires pour les pays africains.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Vous vous souvenez certainement du navire Probokoala, un pétrolier panaméen affrété par l'entreprise Trafigura qui a déversé des déchets toxiques à Abidjan en 2006. 10 ans après, les populations d'Akouedo continuent toujours de souffrir des odeurs de ces déchets déversés en plein air dans des zones habitées. Les promesses prises par Trafigura n'ont pas été tenues. Julien Adaye, notre correspondant à Abidjan, est retourné sur les lieux et a rencontré des victimes. Son reportage.
Le Probokoala a en août 2006 déchargé au port d'Abidjan 581 tonnes de déchets toxiques répartis sur 17 sites à Abidjan, dont la décharge d'Akouedo dans le nord de la ville. Thierry Goré, technicien dans cette décharge et l'une des victimes de ces déchets que nous avons rencontrés sur le site pollué, se souvient.
Dans la nuit du 18 au 19 août 2006, il y a eu le déversement de déchets toxiques ici. Et lorsque j'ai eu ce déversement, on a tout bloqué et qu'on n'a pas travaillé pendant un mois, voire deux mois. Tous les gens sont venus faire l'enlèvement, ça n'a pas été total.
Les populations rencontrées dans le périmètre de la décharge disent supporter difficilement les odeurs des résiduels de ces déchets qui polluent encore leur quotidien. Leurs avis sont soutenus par Thierry, qui nous égrène le chapelet d'impact sur leur santé et leur vie.
Quand il pleut, l'odeur toujours envahit le village, que ce soit ici à la décharge et que ce soit ailleurs. L'odeur persiste toujours. Et ça fait qu'aujourd'hui, bon, ça nous a rendu malades. Il y en a même qui ont eu les avortements, il y en a qui ont fait les fausses couches, il y en a aussi qui ont eu les enfants, malformations, et c'est juste qu'aujourd'hui ça continue. Ça nous cause beaucoup de désagréments.
Thierry, qui travaille ici depuis 1999 dans cette décharge et qui souffre de problèmes respiratoires depuis les déchets toxiques, souhaite la fermeture de cette décharge pour préserver des vies.
10 ans après, notre souhait avait une nouvelle décharge. Quand on travaille, on n'est pas à l'aise.
Même son de cloche avec Abel Djeket, président des jeunes du village d'Akouedo et qui fait partie des nombreuses victimes des déchets toxiques. Depuis 2006, il traîne des boutons et souffre aujourd'hui d'un cancer de la peau. Il semble quelque peu désespéré.
Ça nous fatigue. Nous ne sommes pas libres. On ne sait pas quoi dire. Nous sommes là. On regarde le gouvernement. On regarde. Et les gens en meurent. C'est écœurant. Ça fait mal, mais on est dedans.
L'État ivoirien a touché en son temps 100 milliards de francs CFA de la part de l'armateur du bateau en échange de l'abandon des poursuites judiciaires. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces victimes n'ont toujours pas été indemnisées, au nombre desquelles Patricia.
L'indemnisation n'a pas encore été faite. Après 10 ans, il est clair qu'il y a eu un premier processus de paiement. Mais tout s'est arrêté à un moment donné et on attend toujours d'être payé, ce qui n'est pas encore le cas.
Pour Yao Denis, président du collectif des associations des victimes, 10 ans après le passage du navire panaméen, le nombre des victimes a augmenté. Mais avec le changement de régime, les choses sont restées à la traîne.
10 ans après, nous constatons un goût d'inachevé. Au niveau de la dépollution, c'est vrai que l'État nous a annoncé l'achèvement de la dépollution, mais aucune expertise indépendante n'a confirmé cette dépollution. Au niveau sanitaire, nous n'avons pas d'hôpitaux aujourd'hui spécialisés pour le suivi des victimes. Au niveau des indemnités, c'est le tohu-bohu total. Au niveau également judiciaire, aucune responsabilité directe n'a été dite dans cette affaire.
Il aura fallu attendre près d'une décennie pour que les sites intoxiqués soient décontaminés. Après de longs mois de traitement de dizaines de milliers de tonnes de terre, tous ces lieux sont à nouveau cultivables et habitables, selon Rémi Kouadio-Ala, ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement Durable. Mais le gouvernement est allé encore plus loin, soutient-il, avant d'ajouter.
Le gouvernement ivoirien, dès le départ, a engagé des actions de dépollution sur tous les sites, en tout cas reconnus, comme ayant été pollué par les déchets toxiques. À la suite de cela, le gouvernement, pour s'assurer que sa dépollution a été véritablement efficace, a commis le punieux pour venir faire un audit de tous ces sites qui ont été pollués et qui sont censés avoir été dépollués. Et nous pensons que d'ici quelques mois, on saura si oui ou non les activités de pollution ont été véritablement efficaces.
Pour mémoire, en 2006, les déchets toxiques déversés par le Probo Kouala à Abidjan avaient fait 17 morts et des dizaines de milliers de victimes. Aujourd'hui, 10 ans après, l'affaire n'est toujours pas réglée et de nombreuses victimes restent encore à indemniser. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Pour mémoire, en 2006, les déchets toxiques déversés par le Probo Kouala à Abidjan avaient fait 17 morts et des dizaines de milliers de victimes. Aujourd'hui, 10 ans après, l'affaire n'est toujours pas réglée, comme vous venez de l'écouter dans le reportage. Merci de nous avoir suivis. Continuez Tiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.
Don't need some of my last.